BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Tout pour investir, l'émission qui vous aide à prendre soin de votre patrimoine et devenir de meilleurs investisseurs. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web et en podcast. Bon, alors au milieu de la tempête politique du moment, vous avez entendu Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui a donc posé sa démission, qui a été acceptée. Vous l'avez entendu, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer mon mandat de Premier ministre. Sébastien Lecornu qui déplore les appétits partisans qui ont conduit à sa démission. Le résultat concret de tout cela, un Premier ministre qui dure 26 jours et un gouvernement qui est arrivé à peine à durer 15 heures, c'est une baisse marquée du CAC 40. Alors, il sabre une semaine de gains, hein, mais on voit que sur les taux, sur le marché obligataire, la situation se tend très largement et notamment une dette française qui arrive quasiment au plus haut de l'année à 3,59%, et on voit l'écart de taux avec l'Allemagne qui revient sur des plus hauts qui datent de l'année dernière après la dissolution. Et donc, du coup, de l'agitation. On va essayer de déchiffrer tout ça avec Gustave Sandden de Colbert et Mathias Bacino de Trade Republic, essayer de voir où on va, de prendre des bonnes décisions, de ne pas s'affoler, de ne pas raisonner à l'emporte-pièce. C'est là qu'on prend les pires des décisions. Donc, essayer de décrypter, déchiffrer tout ça. Plan de trading complet aussi à retrouver qui sera utile aujourd'hui avec Jean-Louis Cussac de Perceval dans quelques minutes. Garder la tête froide, c'est aussi savoir se positionner au bon moment et avec les bons instruments. Et on a pile ce qu'il vous faut aujourd'hui avec Julien Lemetzal, dit Toro, tout à l'heure spécialiste de la finance comportementale. Est-ce que l'usage des ETF, par exemple, peut vous prévenir contre la fébrilité des marchés, surtout en ce moment? Toutes les réponses avec lui tout à l'heure. Et puis, on va se mettre à l'abri des turbulences de marché en investissant, pourquoi pas, sur le non-coté. Toutes les bonnes recettes pour intégrer ça à votre portefeuille, c'est à retrouver dans notre boîte à outils. On sera avec Paul Moreno-Blosville d'Opal Capital. Focus spécifique d'ailleurs sur le private equity. Ce sera en fin d'émission dans notre coffre-fort avec les spécialistes d'Altaroc et toutes les bonnes opportunités à dénicher, un vrai guide pas à pas. D'ici là, vous pouvez nous joindre par email direct à bfmbusiness.fr, nous envoyer un SMS au 732-16, vous tapez le mot-clé business suivi de votre message, puis vous pouvez éventuellement aussi me poser vos questions directement sur Twitter. Le reste de l'actualité du jour, on l'a dit, la tempête politique se poursuit en France. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre il y a 26 jours, a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Le nouveau gouvernement aura duré 15 heures, ce qui constitue un record absolu de brièveté. C'est un petit peu le flou en ce moment. La réaction des marchés, on l'a vu, le CAC 40 en baisse, moins 1,58%, mais c'est surtout le secteur bancaire qui est en fort repli, notamment la Société Générale, qui baisse de 5%. Et puis, des tensions sur les taux français. On décortiquera bien sûr tout ça dans notre émission dans quelques minutes. À tout juste une semaine du meeting patronal, la pression monte pour le MEDEF également, l'organisation patronale qui a été lâchée par la CPME et UDP. Elle doit maintenant mobiliser ses troupes pour remplir Bercy. Et puis l'actualité internationale, à pas oublier, à la veille des 2 ans du 7 octobre, c'est le début des négociations pour mettre fin à la guerre à Gaza. Les délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis se retrouvent à Sharm el-Sheikh en Égypte pour négocier sur le plan de paix de Donald Trump et notamment la libération des otages et des détenus de chaque côté. Le président américain qui appelle tout le monde cette nuit à avancer très rapidement. Et puis la Russie qui annonce ce matin l'interception de plus de 250 drones ukrainiens ces dernières heures et notamment une soixantaine dans le secteur de la mer Noire. C'était l'une des attaques parmi les plus massives de Kiev en 3 ans et demi. Tout de suite un coup d'œil sur votre tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Donc, on le disait, le CAC 40 qui commence la journée sur une baisse marquée. On ne peut pas parler de panique non plus, hein, mais moins 1,6% en ce moment. On redescend à 7 953 points. En gros, on sabre une semaine de gains après une semaine qui aurait été quand même très, très positive. Et on voit qu'on a un marché français qui sous-performe très singulièrement l'ensemble de l'Europe boursière. L'Eurostock 50, lui, ne perd que 0,46%. On a même un DAX à Francfort qui trouve le moyen d'être en hausse, plus 0,04%. Et du côté de Madrid, par exemple, on est sur une baisse très modérée. On est quasiment sur des points d'équilibre. Dans ce qui pèse à Paris, évidemment, c'est l'instabilité politique. Avec un secteur qui est en ligne de mire, mais comme à chaque fois qu'il y a un coup de grisou politique en France, c'est le secteur bancaire. Moins 5,2% pour la Société Générale à 53,76€. BNP Paribas, moins 4,4% à 74,57€. Crédit Agricole, moins 4,26€, 16,20€. On a aussi le secteur de la défense qui subit des dégagements. Thales, moins 4,17% à 259,60 €. Alors, l'une des valeurs les plus réactives aussi à ces turbulences politiques, c'est Nexity. On va prendre des nouvelles de... Bah oui, c'est une des plus fortes baisses hein, de l'indice large SBF 120. Le titre perd quasiment 9% à 9,87 €. La plus forte baisse de l'indice, elle est pour SEB, mais il y avait aussi des chiffres plutôt négatifs à arbitrer. Le titre, oui, perd 20,3%. C'est sévère, hein, à 52,65 €. Il y a quelques titres qui arrivent à bien surnager, notamment Stellantis. Après une semaine de redressement, le titre poursuit à la hausse malgré ce climat très négatif. C'est vraiment à souligner. Stellantis qui gagne 1,14% à 9,11 €. On a Euronext qui se décide enfin à remonter après une intégration au CAC 40 qui aurait été sanctionnée par une baisse assez longue. Euronext qui reprend 0,48% aujourd'hui à 124,90 €. Et puis du côté de Total, on gagne 0,08%, légère surperformance à 51,10 €. Alors, un coup d'œil sur le marché obligataire parce que c'est lui qui a été le plus réactif à toute cette agitation de ces dernières heures, avec une dette française qui est quasiment revenue à 3,6% de rendement. On est à 3,59, quasiment au plus haut de l'année. Et l'écart de taux avec l'Allemagne, qui est à 2,72, revient sur les niveaux quasiment post-dissolution. Donc on sent à nouveau des points de tension, alors que l'Italie, par exemple, est à 3,55, 4 points de base maintenant sous le rendement de notre propre dette. À noter aussi que l'euro a mal réagi ce matin en signant une baisse assez marquée par rapport au dollar. On est à 1,1665 là en ce moment. Un coup d'œil sur l'or, on a bien passé le cap des 3 900 $. On est en route vers les 4 000. Hein. 3 969 à l'instant, et à noter que l'once d'or fin se maintient sur ses plus hauts de 16 ans. $48,53 pour l'once d'argent. Allez, le déchiffrage tout de suite.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Mathias Bacino, dit Toro, est avec nous. Bonjour Mathias.
De Trade Republic.
Qu'est-ce que je raconte hein? Ça va plus de Trade Republic. La matinée a été assez agitée.
Ah oui, là c'est perturbé. Hein.
Ouais. Gustave Sanden de Colbert, voilà, Mathias Bacino, Trade Republic. Je vous l'écrivais en préparant cette émission. Bon, on va passer en mode un petit peu spécial au secours. On exagère un petit peu, mais enfin bon, voilà. Globalement, on est à nouveau dans la turbulence maximale. Ça sent sur les taux obligataires, ça se sent même sur l'euro, ça se sent sur le secteur bancaire. On est revenu à l'agitation qui prévalait à chaque coup de grisou en termes d'instabilité gouvernementale en France. Et c'est vrai que bon, ben, quand on a 2-3 sous de côté, quand on prend soin de son patrimoine, on n'est pas forcément très très rassuré. Je vais vous poser une question bête et basique, Gustave. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin ?
La question est assez large. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait déjà, nous, plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce que nous disent les clients, c'est comment je fais pour protéger mon patrimoine de la dette française et de l'insécurité réglementaire associée justement à ces gouvernements qui se succèdent. Donc malheureusement, on est obligé de répondre à ces problématiques et à trouver des solutions. Je rappelle qu'on a le droit de détenir des comptes à l'étranger dès lors qu'on les déclare. Donc ça, c'est pour les risques de dépôt. Et c'est une première mesure qu'on peut faire si vraiment on est inquiet du système. Et il y a des gens qui ont vraiment cette inquiétude systémique. Et par ailleurs, on peut aussi détenir des contrats d'assurance vie à l'étranger, comme au Luxembourg, ce qui est quelque chose qu'on fait malheureusement de plus en plus. Enfin, malheureusement, heureusement pour nos clients, parce qu'ils nous le demandent. Mais effectivement, on serait ravis que l'épargne soit fléchée vers l'économie française, l'épargne soit fléchée vers la dette française. C'est de moins en moins le cas. Quand on parle d'assurance vie française, souvent on fait l'amalgame d'ailleurs. On confond l'assurance vie et le fonds en euros. C'est deux choses très différentes. Le fonds en euros en France, il finance essentiellement la dette française. Et ceux qui sont un tout petit peu avertis commencent à se dire est-ce que c'est vraiment là-dessus que je veux avoir toutes mes économies ? Et donc, c'est effectivement des questions qui sont légitimes. Donc, nous, on n'est pas dans l'alarmisme. On est là pour servir des clients et on est plutôt là pour nuancer ses positions. Mais clairement, avec ce type d'annonce, 12 heures pour un gouvernement, je pense que cette tendance va malheureusement s'accélérer.
Ouais, 25 jours pour un Premier ministre et à peu près 12 heures pour un nouveau gouvernement. Mathias Bacino, c'est vrai que très concrètement, on parlait des sujets. Il reste quand même... en filigrane de tout ça, et malgré les bisbilles gouvernementales, ce Premier ministre qui démissionne, etc., une atmosphère de volonté de taxer un peu plus les riches patrimoines. Est-ce que vous pensez que ces considérations vont perdurer après la période d'instabilité qui s'annonce là ?
Les boucs émissaires sont toujours pratiques. quand on est incapable d'agir, quand on n'a plus de solution, eh bien, on cherche un bouc émissaire pour canaliser l'émotion négative de la population. Et donc, le bouc émissaire de ces derniers temps, ça a été les entrepreneurs à succès. Ouais. Ça a été le bouc émissaire de ces dernières semaines. Ça ne règle aucun problème. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'État, dont le rôle dans le système économique est de garantir la sécurité et la confiance dans le système économique, ce rôle-là n'est plus tenu. Et donc, on a une crise politique évidente qui est en train de se transformer en crise financière. Et ce matin, j'ai désormais une certitude plus forte que ça va se transformer en crise économique. Le cercle vicieux économique est enclenché ce matin, à savoir baisse de la confiance de manière générale de l'ensemble des acteurs du système économique, les consommateurs, les entrepreneurs, les investisseurs. Cette baisse de confiance génère moins d'investissements dans l'économie française et moins d'investissements à une heure où le monde est en train d'adopter une vague technologique majeure de l'intelligence artificielle. C'est une catastrophe de long terme qu'on est en train de préparer du fait de cette absence d'investissement. Absence d'investissement qui va déclencher une hausse du chômage et donc une baisse de la consommation et donc une crise économique qui est en train de se préparer du fait de la crise politique en France. Donc c'est un énorme problème. Moi, j'ai une pensée ce matin pour les salariés actionnaires de Engie, de Veolia, de Vinci, de toutes ces boîtes, des bancaires qui souffrent alors que leur gestion n'y est pour rien. Oui, c'est elles souffrent uniquement de la perte de confiance dans la capacité de l'État français à assurer la stabilité économique. Donc c'est évidemment une très mauvaise nouvelle et on ne peut que souhaiter un retour au calme. Est-ce que les patrimoines élevés vont continuer d'être un bouc émissaire dans cette période ? Bien sûr. Est-ce que ça peut régler les problèmes de la France ? Non.
Certainement pas.
Voilà. Donc on est malheureusement dans une impasse et ça va forcément déclencher une crise économique. Je ne sais pas comment le dire autrement à ce stade. Alors même que d'autres pays d'Europe cartonnent, je pense à l'Espagne par exemple,
oui.
Je pense à des pays d'Europe qui ont encore des marges de manœuvre comme l'Allemagne, je pense à des pays qui dont les notes progressent, comme l'Italie et l'Espagne ces dernières semaines. Et c'est vrai que la comparaison fait malheureusement beaucoup de peine, quoi.
Gustave, pour abonder dans ce sens, on avait ce matin dans Good Morning Business le patron de Novartis France qui disait un truc qui fait froid dans le dos. Qui disait, nous, on a signé un investissement massif en France il y a 2 ans. Là, dans le contexte actuel, on n'est même pas sûr qu'on le ferait. Je suis jeune entrepreneur, j'ai une idée de génie, je veux monter ma boîte. Là, maintenant, je vais rien faire. Je vais attendre que ça se tasse. Mais ça fait 1 an et demi qu'on attend que ça se tasse et ça se tasse toujours pas. Donc, est-ce qu'au milieu de tout ça, c'est vrai que Mathias nous parle d'une crise financière à venir, au bout de l'économie réelle, il y a des entreprises qui ont des business à monter, qui ont des investissements à faire et qui, là, sont totalement bloquées. Donc, Est-ce que vous aussi, vous pressentez les ferments de ce qui pourrait ressembler à une crise ?
Je vous le dis, c'est un peu pire que ça, puisque moi, c'est des épargnants lambda, entre guillemets, ou des personnes privées qui se posent des questions. Moi, j'ai des patrimoines à moins d'1 million d'euros qui m'ont appelé et m'ont dit « Est-ce que vous faites de l'offshoring ?»
Ok.
La perte de confiance est
considérable. Est-ce que vous faites de l'offshoring à moins d'1 million d'euros ? C'est une histoire vraie.
Mais oui, mais depuis le début...
La question, c'est... on peut le traiter, et encore une fois, ça peut être tout à fait légal, et c'est pas grave, mais c'est des questions qu'on devrait pas se poser.
C'est exactement ça.
C'est des questions qu'on devrait certainement pas se poser. Encore une fois, on essaie de nuancer cette situation. Maintenant, le problème, c'est qu'on essaie d'expliquer rationnellement et financièrement une crise qui est une crise politique. Une crise politique assez simple. Il y a des élections qui sont faites, on peut contester le bien fondé ou pas d'avoir mené ces élections. Les résultats, ils disent quelque chose, au premier tour et au deuxième tour. D'ailleurs, des choses un peu différentes. Mais quel est le changement de gouvernement depuis ces fameuses élections ? Au premier tour, vous avez un parti qui se dégage à plus de 30%. Il n'y a pas un membre de ce parti qui est représenté dans les gouvernements successifs depuis 1 an. Ensuite, on peut avoir une autre lecture, dire le deuxième tour, finalement, parle plus fort. Dans ces cas-là, il faudrait des membres de la France Insoumise et du Parti Socialiste. Il n'y a pas un membre de ces différents partis qui sont représentés. Il se trouve que la Ve République est un parti de majorité, enfin un système, disons, fait pour des majorités fortes, mais cette structure-là, aujourd'hui, est dépassée. Et quand on regarde tous nos voisins européens, il n'y a pas un pays démocratique en Europe qui n'a pas, avec un parti qui fait 30% ou plus au premier tour, qui n'a pas de représentant de ce parti dans son gouvernement. Ça n'existe pas. Donc là, en fait, on continue de refaire la même chose en disant, est-ce que cette fois-ci, en faisant la même chose, ça va marcher ? Surprise.
C'est qui? C'est Einstein qui disait le début de la folie, c'est quand on recommence toujours la même expérience avec l'espoir que ça donne un résultat différent.
Nous, on peut s'époumoner à parler des taux, des ratings, mais la simplicité du diagnostic, c'est ça qui est affligeant. C'est la simplicité du diagnostic qui était quand même, a priori, l'intention. On veut clarifier l'opinion des Français, disait le président. Bah, elle a été clarifiée, l'opinion des Français. Est-ce qu'elle est reflétée dans le gouvernement? Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Mathias.
La seule bonne nouvelle, entre guillemets, dans tout ça, c'est les gens.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai eu la chance de donner plusieurs conférences ces derniers jours, ces dernières semaines, et d'être à la rencontre de centaines de personnes, de la classe moyenne, des jeunes, des moins jeunes. Et leur réaction face à ça, c'est de prendre les choses en main. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On a coutume de dire, à tort, que la France est un pays où on attend tout de l'État, où les gens attendent qu'on s'occupe d'eux, et etc. C'est pas du tout ce à quoi moi je suis confronté.
D'accord.
Moi, je suis confronté à des centaines de milliers de gens qui ont bien compris qu'il fallait se prendre en main et qui apprennent à évoluer dans ce monde plus complexe, plus difficile, plus incertain, et qu'ils le font plutôt correctement. Donc, il y a quand même un impact positif à ça, c'est que les gens découvrent qu'ils peuvent faire pas mal de choses, en fait, par eux-mêmes, pour se protéger, pour se développer, pour s'assurer un cadre de vie, un niveau de vie agréable. Ouais, et c'est ce qu'on peut espérer de cette période, en attendant que la classe politique retrouve de l'efficacité, quoi, tout simplement, hein, un peu d'efficacité, parce que là, ils sont en perte de prise, quoi. Il n'y a plus de prise, là, sur le réel. Donc nous, ça veut dire que tout le système économique subit la situation, subit l'accélération du changement du monde. Et ça, c'est pas bon.
C'est ça. Et ça nous ramène à des sujets qui font l'actualité. Une incertitude de plus sur l'échiquier, mais globalement, ça propulse aussi l'once d'or fin à 4 000 $, là, quasiment, on est à 3 967. Puis le Bitcoin aussi. Le Bitcoin, mine de rien, à bas bruit, a signé un nouveau record absolu. On est à 126 000 $. Donc on cherche de la réserve de valeur, finalement. Est-ce que ça dit pas aussi, est-ce que c'est pas un petit peu signifiant sur l'état d'esprit des investisseurs qui sont en train de se dire, bon, l'économie c'est risqué, le rendement, je suis pas tout à fait sûr de mon coup, mais au moins je veux mettre mes sous à l'abri. Est-ce que c'est pas un signe de plus qu'on a un mouvement de fond dans cette direction-là?
Si, tout à fait, d'autant plus que pour l'instant les flux institutionnels vers certaines valeurs refuges sont encore modérés. C'est-à-dire qu'on en parlait avant l'émission avec Mathias, il y a encore beaucoup de liquidités. Ces liquidités, jusque-là, justement, sont celles qui soutenaient les actifs productifs, les actifs risqués, les actions. Pour l'instant, ils étaient fléchés, effectivement, vers les grands indices et donc portaient l'économie mondiale et les principaux indices boursiers. Maintenant, on va voir si, effectivement, ça se maintient, parce que si ces grands flux, si ces liquidités se déplacent, au même titre que certains particuliers se déplacent vers des actifs que vous qualifiez de refuge, hein, sachant que le Bitcoin est peut-être plus à débattre que
oui, historiquement.
Ça dépend des jours. C'est actif risqué, refuge.
Ça. On parle de réserve de valeur.
Qui certains jours est corrélé au Nasdaq et certains jours plus en fait, à l'once d'or. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est les jours corrélés au Nasdaq qu'il faut regarder peut-être de près. Mais en tout cas, pour l'instant, les grands flux des investisseurs institutionnels ne sont pas dirigés vers ces actifs-là. Et donc, tant que ces flux sont dirigés vers l'économie réelle, entre guillemets, ou vers les marchés traditionnels, jusqu'ici, tout va bien. Voilà.
Mathias.
On a une situation complètement paradoxale et qu'en plus, nous, vu de France, on va probablement voir un peu de manière biaisée par le pessimisme en France. Donc, au global, les investisseurs mondiaux et les marchés sont quand même en mode, comme on dit, risk on. C'est-à-dire que ça investit, on enchaîne les plus hauts, 35 plus hauts depuis le début de l'année, sauf erreur de ma part, sur les indices américains.
Pas d'erreur, c'est
donc
ça.
Donc, c'est un mode risk on. C'est-à-dire les investisseurs investissent. Le narratif principal, c'est quand même l'amélioration des gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle qui est en train d'être adoptée assez massivement dans l'économie. Donc, pour l'instant, la question que les épargnants peuvent se poser, c'est qu'est-ce qui peut refaire basculer le marché en mode risk-off ? C'est-à-dire à quel moment les grands investisseurs vont prendre peur ? Et ça, pour moi, c'est directement lié à l'état de santé de l'économie américaine et du marché de l'emploi américain. Le problème, c'est qu'on a manqué de données la semaine dernière pour y voir plus clair aussi. Donc, l'absence de données liées au shutdown peut causer de la volatilité parce qu'on n'a pas la donnée qui nous permet de savoir si la Fed va ou non baisser ses taux fin octobre.
Bien sûr.
Donc, ce que moi je vais regarder de très près, c'est vraiment l'évolution du marché de l'emploi aux États-Unis. Et bad news is good news, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Tant que le marché de l'emploi américain, et c'est évidemment triste à dire, se dégrade, il y a des chances de penser que le marché reste risk on. Voilà. C'est, si on veut donner de la clarté, moi c'est l'indicateur que je vais regarder, c'est l'emploi américain.
Gustave.
Oui, parce qu'en fait, c'est la continuation de ce que dit Mathias, c'est juste les taux en fait. Et tant que le marché se dégrade, on est en capacité de continuer à baisser les taux et donc à maintenir un certain niveau d'investissement. Et typiquement, si on fait le parallèle encore une fois avec la France, la situation qui est en train de se produire, c'est justement une pontification encore un peu plus forte de la courbe des taux longs qui sont de plus en plus élevés a priori, élevés dans l'absolu, mais aussi élevés en relatif par rapport à nos voisins. Et ça, ça va continuer de sérieusement affaiblir la consommation domestique, puisqu'en France, on est quand même un pays de propriétaires immobiliers, par exemple. Un marché qui est en crise structurelle depuis déjà plusieurs années
et qui n'en est pas sorti.
Et dont les conditions vont continuer de se détériorer.
Voilà.
Donc, effectivement, ces dynamiques, faut aussi les observer au regard de la dynamique des taux. Et pour le coup, il n'y a rien pour être optimiste de ce point de vue-là.
Pour preuve, hein, ce secteur bancaire qui signe les plus fortes baisses de la matinée, mais pas oublier Nexity, parce que c'est vraiment la valeur symptomatique dès qu'il y a de l'agitation politique dans le pays, et là, ça repère 9%. Hein, mais on avait la patronne de Nexity la semaine dernière qui nous disait « Mais investir dans l'immobilier, c'est plus rentable en ce moment, il n'y a aucune visibilité. » Enfin, c'était assez fou ce qu'elle disait, mais assez vrai aussi. Merci messieurs d'avoir réagi à cette actualité trépidante. Gustave Sanden de Colbert, Mathias Bacino de Trade Republic, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on va tout de suite se pencher sur le cas du CAC 40 avec Jean-Louis Cussac.
Tout pour investir. Arbitrage.
Jean-Louis Cussac de Perceval. Bonjour Jean-Louis. Alors, c'est typiquement le genre de séance où il faut être attentif à la technique. Alors, on a vu qu'on avait un gros gap baissier avec l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu. Les choses semblent se calmer un petit peu et on semble avoir trouvé un petit point d'équilibre là autour des 7950. Est-ce que vous faites le même constat ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore de la marge à la baisse là pour le moment?
En fait, Antoine, on retrouve les moments de stress qu'on a déjà connus à plusieurs reprises, où on s'est aperçu que il n'y avait pas un fort relais après les premières ventes, on va dire émotionnelles. Donc là, ce matin, c'est sûr que il y a eu un choc. La dynamique de la semaine dernière a été cassée, hein, et on a perdu 2,3% sur le plus haut de vendredi. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça remet en cause, évidemment, l'idée d'acheter immédiatement, de se dire, c'est une opportunité, c'est pas sûr. Et puis, évidemment, quand on regarde un petit peu la situation politique, c'est toujours la même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de visibilité, ça tient à rien. Moi, quand j'ai vu la liste des premiers ministres et qu'il n'y avait pas la suite, je me suis dit, oh là là, il y a un truc qui va pas. Sur le plan technique, il n'y a pas grand chose à dire. On retrace. Non, l'idée d'acheter, pourquoi pas. Alors après, il y a la fameuse liste avec Nexity en premier, on va dire, des valeurs franco-françaises qui font beaucoup de chiffre d'affaires en France, etc. Aussi, il y a l'immobilier qui est pas en forme, mais il y a aussi les valeurs qui ont un chiffre d'affaires très ciblé sur la France. Elles pâtissent davantage que les autres. Alors les bancaires, les financières reculent aussi violemment. Elles pèsent 11% du CAC, les financières. Hein. Je mets AXA dedans. Donc c'est sûr que c'est pas bon. Mais je pense que sans se précipiter, on va plutôt aller à la chasse aux affaires, aux bonnes affaires, j'espère. Mais c'est un niveau normalement d'achat sur repli qu'on a atteint ce matin. Et c'est là où en effet, il faut suivre les signaux techniques intraday, c'est-à-dire que tant que ça tombe, on s'abstient. À un moment donné, il y a une stabilisation. Et là, en l'occurrence, il y a eu un petit signal d'achat technique au-dessus de 7940-45, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, voilà, c'est un message un peu plus positif, entre guillemets, parce que c'est lourd quand même, cette baisse. Ça casse pas mal de positions. Il y en a qui ont mis des stops, qui se sont fait dégager. On dirait ça sera moins fragile comme cela. Et la volatilité implicite, d'ailleurs, pour parler fragilité, est tout de suite remontée vers 16, 16,5 sur décembre. Donc, vous voyez, elle était à 14, il n'y avait pas de complaisance. La construction était solide, il n'y a pas d'effet domino. Et donc, ces marchés, si vous voulez, bon, restent comme ils ont été tous ces derniers mois, c'est-à-dire dans une capacité de rebondir, dans une forte résilience. Il en faut manifestement davantage pour casser le moral. Donc, il n'y a pas grand-chose de précis, là, tout de suite. Est-ce qu'il faut acheter ? Je ne sais pas. On peut attendre, on n'est pas pressé. Mais oui, l'idée d'acheter n'est pas remise en cause par la situation qui, en fait, n'est pas si différente des jours précédents.
Donc, on retient du côté des 7940. Il y a peut-être un petit fond de sauce qui va nous aider. Les volumes d'échanges sont quand même un peu plus élevés que la normale. On approche du milliard d'euros d'actions négociées. Jean-Louis, un dernier mot. Il nous reste quelques secondes. Il y a un petit mouvement technique que vous suivez en particulier aujourd'hui.
Bon, ah non, vous avez sur les... Il y a quoi ? Il y a 120 valeurs dans le groupe A, elles sont toutes en baisse, sauf 6, c'est zéro quelque chose. Donc, il n'y a vraiment rien à faire de ce côté-là. Les biotech étaient toujours pas mal. Mmh. Et pour revenir sur le niveau 7740 que vous citiez, Antoine, là, dont j'ai parlé, ben c'est quoi ? C'est le niveau moyen, c'est à peu près la moyenne de la zone dans laquelle, avant de sortir par le haut, le CAC 40 a évolué autour depuis le 2 mai jusqu'à la semaine dernière. Vous voyez, donc ça pourrait, sur le plan technique, consister à former un support qui est au milieu de la zone d'évolution précédente.
Bon, mais on va garder ça en tête, donc les 7940. Merci Jean-Louis Cussac pour ses arbitrages. Jean-Louis Cussac de Perceval. Pause, et puis on va attaquer la deuxième demi-heure de ce TPI un petit peu chamboulé. Ben, on va justement essayer de se mettre à l'abri de la volatilité des marchés cotés pour se consacrer aux non-cotés. On va vers la démocratisation du non-coté au sein du portefeuille. On en parle tout de suite, là, dans quelques secondes, avec Paul Moreno Blosville d'Opal Capital Partners. Ça tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Et oui, la boîte à outils de cette émission, on va un petit peu décortiquer les solutions pour raviver votre patrimoine et puis évidemment un sujet d'actualité, essayer de se mettre à l'abri des cotations et des marchés cotés. On va se consacrer aux non-cotés parce qu'on est en plein phénomène de démocratisation de ce système de placement au sein de vos portefeuilles. On en parle avec Paul Moreno Blosville d'Opal Capital Partners. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il est question évidemment de se diversifier. Un portefeuille n'est rien s'il n'est pas un minimum diversifié. Et il est clair que dans tout ce qu'offre comme solution le monde de la finance, le non-coté est en train d'avoir une dynamique vraiment ascendante dans les portefeuilles des Français. Comment vous expliquez ça ?
Alors, je dirais que c'est plusieurs effets. Premier effet, c'est probablement que les marchés non-cotés ont historiquement surperformé les marchés cotés, et ça c'est vrai sur toutes les géographies, sur n'importe quelle période de 10 ans glissant, sur les 40 dernières années, ça a été le cas. Donc il y a vraiment une performance historiquement plus élevée. Et la deuxième chose, c'est cette diversification dont vous parlez. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour une société cotée en France, il y en a 200 qui sont non cotées, et qui génère plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a ici un panel dans lequel on peut investir qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond, et qui permet aussi d'avoir accès à des stratégies beaucoup plus larges et beaucoup plus variées que ce qu'on a accès dans les stratégies cotées. On va avoir des stratégies qui permettent d'être beaucoup plus défensifs, avec par exemple la dette privée ou le secondaire, et des stratégies qui vont permettre d'être encore plus offensifs sur des secteurs très précis qui peut-être ne sont pas très représentés dans les marchés cotés.
Alors, c'est vrai que quand on dit non coté dans le monde de l'investissement, on pense tout de suite au private equity, mais effectivement, il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que quand vous nous dites quand vous nous parlez de dynamique un petit peu plus agressive, c'est vrai que par exemple, la dette privée, la dette d'entreprise fait l'objet d'un attrait. On en parlait encore en fin de semaine dernière. Ça commence à devenir un placement que les Français apprécient.
Tout à fait. Et en fait, pour des bonnes raisons, c'est que dans un environnement sur lequel on souhaite être très défensif, parce que on y voit moins clair, parce que on se dit que aujourd'hui on on a besoin de protection. La dette privée a énormément d'atouts. Je dirais peut-être, si je me focalise sur un exemple, la dette privée, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller financer des opérations de LBO, de leverage buyout, c'est-à-dire que un fonds de private equity va prendre une participation au capital, et en fait, pour financer cette participation au capital, va utiliser de la dette qui est donnée par de la dette privée. Alors, et en fait, dans ce cas-là, on a énormément de protection parce que avant que la dette privée perde le premier euro, en fait, il faut déjà anéantir tout le coussin de capital du fonds de private equity. Donc, en fait, on a une protection qu'on appelle structuraliste.
C'est ça que j'allais dire. C'est peut-être une dette qui est encore plus qualitative que la dette d'un État souverain.
Alors, en ce moment, en particulier, on peut trouver de la dette qui est, vous avez raison, qui est plus qualitative qu'un État souverain, en particulier l'État français qui a quelques difficultés aujourd'hui, peut être vu comme plus difficile que cette dette privée.
Alors, on va parler
réglementation. Ici...
Oui. Pardon.
Non, attends, un coup de
Ouais, on va parler évolution de la réglementation, parce que c'est aussi ça qui fortifie le non-coté parmi les solutions de patrimoine du moment, c'est que la réglementation est en train d'évoluer en faveur de ces placements.
Alors absolument, et le but de la réglementation, on le voit très bien avec quelques dispositifs, c'est de permettre de démocratiser l'accès à ces investissements de non-cotés. On l'a vu avec la loi Industrie Verte qui cherche à imposer un minimum d'investissement dans le private equity sur quelques dispositifs. On l'a vu avec les fonds Evergreen, avec le nouveau format ELTIF, qui est un format européen qui vise à rendre plus accessibles ces investissements sur tout le territoire européen. Mmh. Donc il y a vraiment une volonté très marquée de la part des pouvoirs publics de rendre ça plus accessible auprès du grand public. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Bon. En revanche, oui, et en fait, c'est peut-être ça le point, c'est que cette démocratisation, elle doit permettre non seulement aux particuliers d'y avoir accès, mais elle doit imposer de le faire dans des bonnes conditions. Et ça demande un besoin d'accompagnement et d'éducation qui sont élevés, parce que aujourd'hui, les particuliers n'ont pas eu encore accès à ce type d'investissement de façon historique, et donc sont peut-être moins sensibilisés que ce qu'on peut trouver sur des OPCVM cotés, etc.
Voilà, et puis il y a un besoin d'éducation, un besoin vraiment de comprendre ces produits, donc de se faire accompagner, de se faire épauler, et puis aussi faire attention au prix, parce que qui veut dire rendement plus élevé, support plus dynamique, tout ça, c'est un prix qui se négocie sur le marché, bien sûr.
Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, on met en place des dispositifs qui ont une certaine liquidité, mais au fond du fond, tout ça se base sur des transactions qui sont vraiment de gré à gré, négociées sur des points très spécifiques, et qui donc demandent en fait beaucoup de frais d'avocat, demandent beaucoup de frais d'enregistrement de la transaction, qui sont beaucoup plus importants que sur des transactions standardisées qu'on trouve sur les marchés cotés. Donc ça, effectivement, ça va avoir un prix, ça va avoir un coût, et en fait tout ça, c'est dans un univers qui est relativement peu connu du grand public, et donc avoir une grande transparence sur la totalité des frais qui doivent être supportés est important, parce qu'effectivement il y a un surcroît de performance potentielle plus important que dans le coté, mais ça s'accompagne aussi de frais plus importants, et donc finalement c'est la totalité du package net, je dirais, qu'il faut avoir bien compris, et comprendre aussi quels risques sont associés à cet investissement.
Donc voilà,
ils sont
très
un peu
sélectif.
Différents des risques du coté.
Voilà, il faut être très sélectif, c'est ce que vous nous expliquez.
Absolument. Alors ça, c'est vraiment le maître mot pour entrer dans les investissements non cotés et pour que ça se passe bien, c'est que il faut être absolument le plus sélectif possible. Et je dirais que ça c'est d'autant plus accentué que, comme on l'a vu, c'est des investissements qui sont peu connus du grand public et qu'en plus cela se fait au moment d'un paradigme économique et financier qui est en train de changer. On le voit bien avec, on évoquait la dette française, on est vraiment en train de se poser la question de la soutenabilité de la dette française. C'était pas un vrai enjeu jusqu'à présent. Et en fait, tout ça s'accompagne d'énormément de questions qu'il faut se poser et finalement de dire comment est-ce que j'investis dans un fonds de private equity ou de dette privée qui soit en adéquation avec le contexte économique de celui d'aujourd'hui.
Effectivement. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blosville, d'Opale Capital Partners. En tout cas, vous posez les bonnes questions, mais pour saisir ces opportunités sur le non-coté, hein, à l'abri des fluctuations des marchés financiers. Les fluctuations des marchés financiers, on va en reparler tout de suite avec Julien Lebenzal d'Itoro.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Et autant vous dire que vous étiez attendu au tournant, Julia Libenzal d'Itoro. Bonjour, spécialiste de la finance comportementale. Écoutez, on regarde l'évolution des marchés ce matin. On va dire qu'on limite la casse, hein, du côté de Paris. On perd, on solde les gains d'une semaine où, franchement, le CAC 40 était dans de bonnes dispositions. On perd 1,5%. On sous-performe largement l'Europe boursière. Hein, on perd 1,46%, moins 0,37% pour l'Eurostoxx 50. Voilà, c'est les périodes où il faut garder la tête froide et faire un petit peu les comptes des attitudes à avoir sur les marchés. Vous qui êtes spécialiste de finance comportementale, là, cette agitation du moment qui paraît quand même assez modérée, assez compartimentée, comment vous l'interprétez et comment vous pourriez la commenter?
Alors, oui, elle est assez modérée, la réaction aujourd'hui, et je pense que ça appartient à la compréhension par les opérateurs du mouvement qu'il y a en France, mais qu'on trouve en général en Occident, de ces situations politiques qui sont nouvelles, en tout cas qui depuis une quinzaine d'années, si on peut remonter au Brexit anglais, à l'élection de Trump, qui depuis une quinzaine d'années environ, crée des situations inconnues jusque-là, en tout cas qui n'appartiennent pas à notre génération. Alors, il y a une réponse à votre question, mais le cadre de cette réponse, il faut le donner, si on veut travailler ça par les comportements, par le cycle de la dette. Ce sont des choses qui ont été assez bien documentées, et puis je recommande vivement d'écouter les vidéos de Ray Dalio là-dessus, l'ancien grand financier, enfin qui est toujours grand financier, mais qui maintenant consacre du temps à la pédagogie et à la formation. Le cycle de la dette, il est bien connu, il commence par une phase, en général, donc d'expansion économique, pendant laquelle l'innovation se développe, la confiance est au rendez-vous, et petit à petit, eh bien, par l'effet de la financier, la dette progresse pour toujours investir plus. Et ça se passe globalement très bien, jusqu'à un moment où la dette commence à être un peu élevée, le rendement qu'on appelle marginal de capital, c'est-à-dire l'unité de dette supplémentaire qu'on apporte, eh bien, ce rendement baisse, c'est de moins en moins productif. Et puis, la réponse qui est en général donnée par les systèmes capitalistes à ce moment-là, c'est encore plus de dettes, c'est-à-dire on remet encore plus de dettes dans la machine pour obtenir une meilleure croissance ou une meilleure productivité. Mais ce qui se passe, la réalité, c'est toujours le cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la productivité baisse, les investissements de l'État sont de moins en moins rentables. L'un des exemples les plus frappants dans les sociétés occidentales, c'est l'éducation. La santé aussi, hein, faut pas oublier que l'élection de Trump a été fondée en partie sur des conséquences sur la santé des Américains à partir des années 2010-2015. Et ce qui se passe à la fin, c'est une explosion véritablement de ce système. Mais tout ça pour parler de la situation actuelle, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les sociétés réagissent par une recherche d'autres manières de faire, d'autres repères que le repère de la dette, et ça aboutit à des polarisations. C'est des choses qu'on a connues dans le siècle passé, des polarisations politiques qui fait qu'il n'y a plus véritablement de consensus. Donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est pour ça que j'en arrive véritablement à la question, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ça appartient à un cycle de comportement, enfin à un cycle général autour de la dette, qui est un comportement, puisque le cycle, on parle bien d'un état pour arriver à un autre état, c'est ce principe, et il s'agit donc bien de comportements successifs. À ce point-là, on peut ajouter, si on veut avoir un panorama complet, qu'il y a un cycle géopolitique qui a été très documenté, qui est environ de 110 ans, et qui est toujours de la même forme, c'est-à-dire l'ascension d'un pouvoir hégémonique, le fait que ce pouvoir dépense beaucoup, s'endette, et devient finalement, non pas en faillite, mais approche d'une situation de faillite. Pour ce qui nous concerne, ce sont les USA, qui petit à petit se retirent du jeu mondial, du jeu géopolitique. Ça, c'est exactement la définition qu'on a des USA depuis environ 15 ans. Et ce faisant, c'est un monde multipolaire qui, à nouveau, n'est pas consensuel, qui recherche une nouvelle forme d'organisation qui apparaît. Ce qui est très exactement ce qu'on vit. Donc, maintenant, pour répondre très précisément, le plus précisément possible à la question que vous posez, Antoine, quand on est dans cette situation depuis un bon moment, on va y rester encore très longtemps, plusieurs années, c'est à peu près certain. Le temps de la résolution de la problématique de la dette et de la stabilisation géopolitique est un temps très long. Et ce qui compte dans ces cas-là, c'est toujours être extrêmement diversifié. Il n'y a absolument aucune autre réponse possible. Mmh. Et la diversification, c'est certes, on sait, les actions, les obligations, bien sûr, mais ça peut être aussi de détenir un peu d'or, de détenir quelques actifs réels, des choses qui sont tangibles, de manière à avoir un patrimoine qui va pouvoir traverser cette période sans susciter chez l'investisseur le biais comportemental classique de l'aversion aux pertes, c'est-à-dire d'être trop investi quelque part à un moment où ça ne marche pas et de devoir réduire sa position au pire des moments.
Alors,
la diversification.
Il nous reste deux minutes, Julien. Est-ce que, par exemple, les ETF, hein, les paniers indiciels ou les paniers sectoriels, peuvent nous aider justement à garder la tête un petit peu plus froide?
Alors, ça, c'est un sujet très, très vaste. Il vous faudra un petit moment pour en parler, mais... En résumé, les ETF apportent évidemment la diversification dont je parle. Donc en ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, les frais qui sont à l'intérieur des ETF sont plus bas, ce qui permet une amélioration de la performance qui, là aussi, a un effet positif à long terme, puisque l'aversion aux pertes va reculer. Maintenant, et il faudrait prendre le temps d'en parler, mais il y a dans la construction des indices qui sont les sous-jacents des ETF, il y a ce qu'on appelle un effet de feedback. Cet effet de feedback, ça veut dire que les actions qui montent le plus dans un indice vont prendre de plus en plus d'importance, et donc ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, ou donc l'excès de confiance, en fait est embarqué à l'intérieur de l'indice. Ce qui fait que quand on est dans des ETF, on n'est pas totalement déconnecté des biais de comportement, puisqu'on participe, au travers de notre investissement, on participe à l'extension du développement de valeur ou parfois à leur baisse très très forte, puisqu'on réplique un indice qui lui-même s'auto-alimente par le comportement des investisseurs. Donc c'est pas totalement déduit de biais, mais enfin les ETF, c'est déjà une très bonne marche vers la diversification.
Oui, et ça peut participer à cette diversification, surtout si on opère sur plusieurs types de produits.
Exactement, exactement. On peut diversifier, les ETF diversifient en tant que tels, et si on prend plusieurs ETF, on peut encore plus diversifier son risque. Donc ça répond à la problématique actuelle.
Merci infiniment Julien Nebenzahl, dit Taureau, hein, avec ses réponses très pertinentes sur les ETF et comment un petit peu gérer nos émotions sur le marché, surtout dans des marchés comme celui d'aujourd'hui où on a un surcroît de volatilité et puis un sentiment de pessimisme ambiant. Les ETF peuvent être un instrument de diversification et peuvent être diversifiés eux-mêmes. Restez avec nous, dernière partie de l'émission dans quelques instants, on va reparler du non-coté et particulièrement du private equity. Ça va être la fiche technique, comment bien s'y mettre avec les spécialistes d'Altark. À tout de suite.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Et nous sommes avec Frédéric Stollard d'Altaroc. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus généralement des placements dans le non-coté un petit peu plus tôt dans cette émission. Il y a un actif qui saute aux yeux, là en ce moment, dans les dynamiques de développement du non-coté, et particulièrement vis-à-vis du grand public, et c'est votre sujet, hein, spécifiquement chez Altaroc, c'est le private equity. Et on va se poser la question tout bêtement de savoir comment commencer à placer dans le private equity et trouver les bons produits. Quel conseil vous pourriez donner? On va peut-être commencer par tout simplement décrire ce que c'est le private
equity. Comment ça marche? Déjà, private equity, ça veut dire, c'est l'opposition à public equity, parce que l'industrie a été inventée aux États-Unis. Public equity, c'est le côté. Private equity, c'est le non-côté. Ça consiste à investir au capital de sociétés non-cotées, en majoritaire ou en minoritaire, avec deux ambitions, Antoine. Mmh. La première, aider les sociétés qu'on accompagne à changer de braquet. Le fonds de private equity doit aider industriellement et opérationnellement la société accompagnée à changer de ligue, si vous voulez. Mmh. Et la deuxième ambition du fonds qui accompagne en private equity, c'est qu'à 7 ans ou 8 ans, il voudra vendre sa participation en espérant faire 2 ou 3 fois la mise. En tout cas, historiquement. Alors, il y a 2 différences principales entre le côté et le non-côté. La durée et l'engagement. Mmh. La durée, c'est important que les gens le comprennent. Un fonds de private equity, il est investi en moyenne pendant 7 ans et demi aux côtés d'une société qui l'accompagne. L'investisseur institutionnel qui vient à vos émissions, il est investi en moyenne 5,5 semaines sur un investissement coté. Donc, oui. En termes de rotation et de durée d'engagement, le private equity est beaucoup plus long. C'est la durée des business plans. La deuxième différence, Antoine, c'est l'engagement. Le fonds de private equity a une vocation active, c'est ce qu'on appelle de la gestion engagée. Il va amener tout son écosystème de ressources pour aider la société investie a changé de ligue de braquet. Il amène expertise, relations, réseaux mondiaux pour être engagé. Il est au conseil d'administration, il pilote beaucoup de décisions stratégiques ou copilote avec le management. Donc c'est durée et engagement. Et à la fin, qu'est-ce que ça permet de faire, Antoine ? De la surperformance, en tout cas historiquement, de par la surperf côté, oui. Par rapport au côté. Le côté, les sources, c'est PitchBook, qui est l'institut de référence du non-côté mondial, un des instituts. Sur les 20 ans passés, Antoine, le côté a livré à peu près 8% net. Le non-côté, je compare moyenne à moyenne, 13,5%. 550 bips d'écart, 5,5%, c'est très significatif parce que sur des poches longues, et le private equity doit être long. Alors évidemment, les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs, mais pour quelqu'un qui se projette à 20 ans, 8% par an pendant 20 ans, ça fait 4,5 fois la mise. 13,5% pendant 20 ans, ça fait 12,5 fois la mise. Des écarts de perf très importants, si tant est qu'on soit prêt à cette durée. Mmh. Et on cherche à accompagner les sociétés de l'économie réelle avec des fonds engagés. Voilà, c'est ça en deux mots.
D'accord. Bah, écoutez, c'était clair, c'était limpide. Alors, comment vous expliquez d'ailleurs cette dynamique de développement du private equity alors que l'épargnant, vous, votre grande spécialité, c'est de rendre accessible aux petits investisseurs le private equity, qui était généralement on va dire la dynamique de développement de très gros fonds.
Oui.
Comment vous expliquez que le petit épargnant, lui, son premier critère, mais vraiment dans toutes les enquêtes, c'est la liquidité. Private equity, c'est pas particulièrement liquide, on le sait, c'est quelque chose de bloqué pendant plusieurs années et qui donne du rendement, mais voilà, c'est pas forcément très. Comment vous expliquez cette dualité finalement ?
Moi, je suis pas convaincu, Antoine, que l'investisseur privé, son obsession soit la liquidité. C'est intéressant, la liquidité, mais elle a un prix. Donc, si on veut un produit très liquide, on va accepter des rendements plus faibles.
C'est ça.
Ce qui fait le succès, en tout cas, ce qui a fait le succès d'Altaroc depuis 4 ans qu'on a lancé la plateforme, on a quand même collecté 1,5 milliard, hein, on a à peu près 10 000 clients privés, c'est cette idée d'accompagner l'économie réelle, d'accompagner des champions, de toucher du doigt l'économie réelle qu'on accompagne, d'accompagner des sociétés qu'on connaît, des sociétés qui nous passionnent, à travers des actionnaires professionnels très sophistiqués. Donc, investir comme les institutionnels, ça a passionné les clients privés, en tout cas au démarrage d'Altaroc. Et il y a deux choses qui les intéressent. Les sociétés en hypercroissance, ouais. Qui auraient pu aller en bourse et qui ne sont pas allées en bourse. Je prends un exemple. Elles viennent souvent à vos émissions. OVH, Back Market, Doctolib. Elles ne sont pas allées en bourse au début de leur histoire. Elles sont allées accompagnées par des fonds de private equity. Avec les fonds que nous investissons, dans lesquels nous investissons, le client privé peut rentrer au capital de ces sociétés. Donc, on appelle ça les hyper-growers, les sociétés en hyper-growth. Deuxième type de société qui intéresse le client privé, les consolidateurs champions. Donc, les sociétés qui étaient champions régionales, qui sont devenues nationales, européens ou mondiaux. Donc, dans le monde de la santé, Général de Santé, Vivalto, Seva Santé Animale, toutes des sociétés qui auraient pu se coter en bourse au départ de l'histoire, qui ont choisi le private equity pour consolider les cliniques, la pharmacie, le dentaire, la radiologie, les laboratoires de santé animale. Donc, c'est cette envie du client privé d'accompagner l'économie réelle, de la toucher du doigt sur des durées longues, pour aller chercher cet écart de performance. Et il est prêt à une certaine forme d'illiquidité.
Oui, et d'ailleurs, bon, on en reparlera, mais la mise en bourse est aussi une étape de la vie d'une entreprise à travers des cycles de private equity.
Donc, elle vient de plus en plus tard, Antoine. Oui, ça, c'est intéressant. Oui. Parce qu'autrefois, la cotation en bourse, c'était le graal absolu.
Oui,
et on voulait la chercher tôt.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, le nouveau fonds de private equity à taille plus grande, puis le nouveau fonds de private equity à taille plus grande, et peut-être ultimement la bourse, c'est le nouveau chemin.
Oui.
Donc la bourse vient beaucoup plus tard dans l'histoire.
Voilà. Tout à fait. Et alors c'est vrai qu'en plus, il y a quelques décennies, quand on parlait de private equity, on parlait de fonds géants, des Américains, je parle des Cinven, des KKR, des grosses structures comme ça, qui avant tout faisaient de l'immobilier. Ils faisaient de l'immobilier, ouais. LBO, ils s'arrogeaient des énormes portefeuilles immobiliers. Là maintenant, on a de plus en plus de fonds de private equity et de gros fonds qui accompagnent des sociétés qui deviennent tellement performante et tellement dynamique qu'ensuite c'est la bourse et c'est des success stories. Et ça, on peut en raconter quelques-unes.
Ben, prenons les sociétés que j'ai mentionnées. OVH, Doctolib, Back Market. On parle de sociétés qui valent plusieurs milliards d'euros, qui hier se seraient introduites en bourse et qui là ont choisi, c'est un choix délibéré de ces sociétés.
Ouais.
Elles ont choisi de ne pas se coter en bourse. Pourquoi ? Parce que le private equity amène le capital que les marchés cotés apportent aussi, mais il apporte aussi la valeur ajoutée. Il apporte la capacité de faire croître la société plus vite. Donc, c'est ça l'élément majeur. C'est que le private equity apporte cet élément de surperformance au manager. Et c'est ça aussi qui intéresse le client privé.
Ouais, absolument. Ouais. Et des sociétés comme Moncler, par exemple, qui est un excellent...
Très longtemps par des fonds de private equity.
Absolument. C'est, si nous regarde Patrick Sayer, bonjour, qui aura été à l'origine de ça.
OpenAI. OpenAI aujourd'hui, en hypercroissance, OpenAI ne s'est pas introduit en bourse. Mmh. On parle de valorisation de 200 ou 300 milliards. Mmh. OpenAI est aujourd'hui financé par des fonds de private equity et quelques stratégiques.
Et là, ça peut aussi être une solution pour des entreprises qui travaillent sur des secteurs tellement novateurs que, et c'est le cas d'OpenAI, on fait beaucoup de chiffres d'affaires, on brûle aussi énormément de cash. Donc le private equity est aussi un creuset dans lequel on peut se permettre de se développer en n'étant pas tout à fait sur tous les moteurs de croissance qui permettraient d'être cotés en bourse, et ensuite peut-être d'y accéder une fois que ce sera une opportunité.
Parce que la bourse a besoin d'une chose, Antoine, de lisibilité et de simplicité. Oui. Si je ne suis pas un objet gros, simple à comprendre et à trajectoire de croissance lisible, la bourse ne me valorisera pas bien. Pour des sociétés un peu plus petites, on parle de sociétés qui valent encore quelques centaines de millions ou quelques milliards, dont la trajectoire d'hypercroissance est dure à comprendre pour les marchés financiers, le private equity est finalement le creuset idéal pour construire un champion avec des actionnaires engagés. De vous à moi, le travail que fait le fonds de private equity au capital d'une société, c'est du délit d'initié, hein. Donc, parce qu'il connaît l'information, il a accès à l'information. Donc, sur un marché coté, ça ne serait pas possible.
Bien sûr.
Donc, on prépare des champions, on construit des champions. C'est la raison d'être du private equity et c'est ce qui séduit les clients privés.
Voilà. Alors, vous avez cofondé Altaroc en 2021.
Oui.
Donc, vous, personnellement, vous êtes un gérant de fonds et c'est une des machines de guerre du private equity. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour terminer, comment ça se passe, un fonds de fonds? Comment ça se construit?
C'est très simple, Antoine. Un fonds de fonds investit dans des fonds. Plutôt que d'investir dans des deals, un fonds de fonds investit dans des fonds. Typiquement, chez nous, c'est 7 fonds. Donc, quel est l'intérêt d'un fonds de fonds? Il y en a 3. Accès, diversification, simplicité. Accès, parce que si je veux investir dans un fonds champion du monde parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure, le ticket d'entrée pour les institutionnels, il est minimum de 20-30 millions. Je veux 7 fonds, ça fait 150-200 millions. Le client privé ne peut pas faire ça. Donc, l'intérêt du portefeuille Altaroc, c'est que pour 100 000 euros décaissés sur 5 ans, je peux accéder en termes d'accès à des gérants dans un portefeuille clé en main. Donc, accès, c'est première chose. Diversification, Antoine, c'est la deuxième chose. J'ai accès à un portefeuille qui, en transparence, me permet d'avoir un investissement dans 450 sociétés finales. Donc, j'ai cette diversification gérant secteur pays magnifique, indispensable dans un portefeuille. Et le troisième sujet, simplicité. En un clic, chez mon conseiller en gestion de patrimoine, mon CGP ou mon banquier privé, je sais investir comme les institutionnels avec un portefeuille packagé, piloté et simple. Donc, accès, diversification, simplicité, ce sont les trois clés du succès des fonds de fonds.
Bon, on termine, il nous reste quelques secondes. Tout ça, ce n'est pas gratuit, évidemment, il y a quand même des frais.
Oui. En deux mots, ou en 2%. Ça coûte à peu près 2%. Pour faire tout ça, on est 74 personnes chez Altaroc, on ne fait que ça. Alors, vous allez me dire 2%, c'est plus que la gestion typique cotée. Oui, mais ce qu'il faut regarder, on construit des portefeuilles, on diligente des gérants, on assiste à toutes les réunions de reporting, trimestrielles, semestrielles, annuelles. On change de gérant si ce n'est pas opportun. On crée le middle, le back, le front, on éduque, on répond aux questions, on gère la conformité. On a un call center qui répond à 3000 questions par mois, nos CGP et nos banquiers privés. Donc tout ça, c'est complexe, ça coûte 2%. C'est ultra transparent, c'est extrêmement simple. On explique toute notre structure de frais, c'est que 2%. Et à la fin, ce qui compte, Antoine, c'est est-ce que net de ces 2%, je sais aller chercher une performance qui est supérieure à celle des marchés cotés, parce qu'il faut bien que je sois rémunéré pour les liquidités. Et en tout cas, historiquement, la réponse est oui. Historiquement, nos gérants historiques ont généré des performances absolument remarquables qui, nettes de nos 2%, sont encore très supérieures à celles des marchés cotés. Donc, le private equity, ça a un coût. Pour se bâtir ses portefeuilles clés en main, ça coûte à peu près 2% de façon totalement transparisée et simple.
Merci beaucoup, Frédéric Stollard d'Altaroc, hein, le private equity au service de l'investisseur particulier. Ça reste une opportunité de diversification. On se retrouve le jeudi 20 novembre au pavillon d'Armenonville pour TPI, l'événement auquel vous assisterez. Et puis, on pourra parler encore très très longuement de ces dynamiques d'investissement. Merci d'avoir été à l'écoute de ce TPI un petit peu particulier à cause de l'agitation politique. Je vous retrouve à 15h30 avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse. Et d'ici là, vous retrouvez Marie Cœur de Roy, les experts de l'IMO. C'est tout de suite.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.